Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Thibaut, ça vient de tomber avec l'enquête du jour.
Et oui, dans le viseur, les conditions d'organisation de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Selon les informations de nos confrères de BFM TV, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour financement illégal de campagne électorale, financement illégal de partis, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. C'est un courrier public d'une conseillère régionale d'Île-de-France, Babette de Rosière, qualifiant une campagne hors sol au printemps dernier qui aurait mis le feu aux poudres. Dans la foulée, Julien Baliou aurait fait un signalement au parquet estimant que des moyens de la région Île-de-France auraient été mis au service de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse.
Pierre Rando, ça fait désordre là, quand même.
Surtout qu'on commence à être malheureusement habitué de la part des Républicains, anciennement UMP et anciennement RPR. On a le sentiment que c'est une habitude chez eux d'être en permanence mêlé à des affaires de, non pas de corruption, mais de financement illégal de campagne. Alors là, ça vient de tomber, donc j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, donc je ne viendrai pas à l'esprit ou à l'idée de faire un commentaire objectif, mais tout ce que je constate, c'est que c'est encore du côté des
Républicains. Il y a quand même pas mal de jeux d'accusation là, quand même.
Oui, bien sûr, et que ça vienne de Julien Baillou, en plus, c'est assez cocasse. Mais voilà, c'est encore du côté républicain. Il y avait eu des affaires avec Nicolas Sarkozy, il y avait eu des affaires avec Jacques Chirac, il y avait eu des affaires avec Alain Juppé. Au bout d'un moment, on a envie de se dire, les gars, je sais pas, remettez-vous en question. Après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Donc
après, t'as des problèmes de financement de la vie publique. On sait que le RN, la France Insoumise sont aussi mis en cause dans des financements d'assistants parlementaires au niveau européen. Oui. On a un problème de financement de la vie politique. Aujourd'hui, faire une campagne présidentielle coûte très cher. On le sait bien. Et donc, il y a une tentation, malgré les tentatives de Michel Rocard d'assainir un petit peu ce secteur en créant notamment la haute autorité de la transparence de la vie publique. On a une difficulté aujourd'hui à financer les campagnes électorales parce que ça coûte en fait beaucoup plus cher que ce qu'on
pense. Oui, c'est plafonné.
C'est plafonné, mais justement, il y a une tentation de déplafonner en faisant du financement illégal pour être. Enfin, on se souvient des meetings très coûteux de Nicolas Sarkozy.
Dépensé et en plus, elle n'a pas atteint les 5%, donc
elle a quand même beaucoup demandé. En plus, elle n'a pas été remboursée, donc c'est très compliqué. Donc il faut attendre de voir ce que donnera l'enquête. Mais on a un problème aujourd'hui de financement de la vie publique. Alors, c'est un peu contre-productif et contre-instinctif de ce que je dis, parce que beaucoup de nos auditeurs pensent que déjà notre vie politique nous coûte très cher. En fait, elle nous coûte très peu cher si on rapporte à chaque électeur.
Non, en plus, on pensait qu'avec les nouvelles technologies, en fait, les campagnes, elles coûtaient moins cher. Et c'est pas le cas.
Un hologramme, ça coûte cher, vous savez.
Et puis surtout, on fait appel à des boîtes qui ciblent, etc. Ça coûte très cher.
Et les cabinets de conseil, fameux cabinets de conseil.
On fait un Twitch, pas besoin de réunir, de faire autant de
messages,
etc. Ça coûte très cher.
On passe par des bureaux d'études.
Parce que Twitch, vu que ce sont les retraités qui votent, sous les Twitch, c'est pas encore.
Mais justement, il faut séduire les jeunes. C'est pour ça que des partis comme la France Insoumise investissent beaucoup ce type de médias.
Aujourd'hui, il vaut mieux séduire les vieux. Vous voyez, ça rapporte plus. Thibaut Texer, nous allons passer tout de suite à l'erreur du jour.
Eh oui, Google a-t-il prédit l'avenir en donnant hier le nom des prochains finalistes de la Coupe du Monde au Qatar, en cherchant sur le moteur de recherche la programmation des prochains matchs au stade Lusail à Doha, lieu de la finale de la prochaine Coupe du Monde. On pouvait y voir un certain France-Brésil. Eh oui, je vous le donne. France-Brésil, le 18 décembre prochain, jour de cette fameuse finale, un remake aussitôt rectifié, puisqu'il semble à ce jour peu probable au vu des récentes prestations des Bleus.
Vous y croyez ou pas une petite finale France-Brésil? Je crois au Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde en tout cas.
Oui, ça oui. Le Portugal, ils sont pas mal aussi. Ouais. Mais tout est possible. Franchement, ça fait tellement longtemps que je commente et que je parle et que j'écris sur le foot que j'ai appris à ne plus faire de pronostics.
Ouais, je suis d'accord avec
parce
vous.
Parce que là, là-dessus, ça me paraît très dangereux. Mais c'est vrai que.
Mais moi, j'aime bien l'idée de la France qui renaît de ses cendres, vous voyez, la France moribonde et qui se hisse.
Ça arrive. Avec toutes les catastrophes qui en ce moment, les blessures, etc., le mauvais jeu, les défaites, en général, il peut y avoir un sursis. Après, ce genre d'histoire, c'est vrai que c'est rigolo, mais combien de fois on a eu des erreurs, des choses qui ont été annoncées avant, à cause d'erreurs informatiques, les algorithmes, tout ça, ça fait des bêtises. Donc là, ça fait du bruit parce que c'est une finale de Coupe du Monde, quoi.
Il y a même des poulpes qui ont annoncé des trucs vrais.
Oui,
c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, et je serais curieux de savoir, j'ai pas eu l'information, c'était une erreur humaine et quelqu'un aurait écrit France-Brésil, ou alors c'est justement l'algorithme de Google qui a mis ça automatiquement. Et il faut rappeler que l'algorithme de Google, en tout cas, son intelligence artificielle, a été construit, en tout cas, a été utilisé pour le mondial 2014 et le mondial 2018 pour prédire les résultats. Avec une marge d'erreur assez élevée, mais en tout cas, qui n'a eu de cesse de s'améliorer pour tenter, de façon par l'informatique et par les probabilités assez complexes, tenter de prédire les résultats. Alors je serais curieux de savoir si c'est cet outil algorithmique qui a écrit France-Brésil, donc il y a une part de finalement de prédiction certaine ou l'erreur humaine, un stagiaire.
Enfin, est-ce qu'on a les scores de chaque match pour que je mette 1 euro sur chaque
En tout état de cause, il y a un courtier allemand qui avait donné la victoire de la France notamment en 2018, qui a donné en finale Argentine-Angleterre.
Mais je crois pas
en tout état de
cause. Et l'Argentine.
Mais jamais de la vie.
Et l'Argentine gagnante.
Ouais. S'il donne l'Italie, il faut pas le suivre non plus, hein,
oui. Ah oui, non.
En tout état de cause.
L'Italie n'y est pas.
Oui, c'est ça.
En tout état de cause, s'il n'y a pas qualifié à la Coupe du Monde.
En tout état de cause, si vraiment il y a une finale France-Brésil le 18 décembre, les complotistes.
Oh là 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 là.
Vont, ça va être.
Mais Thierry, ça va être. Ils n'ont pas besoin de ça, déjà.
Oui, mais après, c'est pas l'affiche la plus improbable. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, alors que.
C'est comme dans le tennis.
Ça voudra dire que tout est truqué.
Oui, mais. Il y a 5 ans, si au tennis vous misiez sur une affiche Federer-Nadal, a priori.
Complotiste
vous aviez quelque chose que ce
là,
soit
la France,
bon,
c'est pas Federer.
Enfin, vous disiez, toi, vous-même, non, la France n'est quand même pas super bien partie.
Oui, mais enfin, Google ne sait peut-être pas qu'il y a des blessés en équipe de France. Donc, s'ils jugent sur le palmarès et sur le fait que la France est quand même championne du monde en titre, bon, bah, c'est assez plausible d'avoir un France-Brésil en finale.
Et s'ils jugent, par exemple, sur le prix des joueurs, parce qu'on a des Mbappé, etc., Neymar, Mbappé, etc., les algorithmes, ça calcule tellement de trucs bizarres que c'est peut-être à cause de ça que France-Brésil est apparu.
Nous allons passer à l'envie du jour. J'adore.
Celle des jeunes qui aspirent de plus en plus à de nouvelles organisations de travail. Selon une enquête Opinionway pour Le Parisien, on apprend que 53% d'entre eux, et ça va vous plaire Estelle, plébiscitent la semaine de 4 jours. Une proposition qui va dans le sens du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui ce matin encore sur RMC et BFM TV rappelait que le travail, bien qu'essentiel, devait être réduit à 32 heures. Parmi les autres aspirations de la jeunesse, un CDI à mi-temps, le télétravail à 100% ou encore la possibilité de cumuler une activité principale à une autre activité secondaire.
Ouais, on sent qu'on n'est pas dans la grosse force de travail.
J'aimerais juste rappeler à ces jeunes, et je respecte et j'entends parfaitement leurs demandes et leurs appels, mais juste qu'un CDI à mi-temps ou que 100% télétravail, vous ne tenez pas 2 ans. Hein. Là-dessus, bah, déjà CDI à mi-temps, vous êtes payé à mi-temps. Donc faut aussi vivre
mais
à mi-temps.
Si t'aspires à vivre, à ne pas vivre dans ton entreprise.
Mais là, avec justement une deuxième activité secondaire.
S'il y a une activité
secondaire
rémunérée derrière, évidemment, oui, c'est un CDI à mi-temps, c'est dans un domaine d'activité particulier. Ah oui. Et ensuite, je fais autre chose tout en travaillant. Donc au final, je travaille à temps plein.
Si tu crées des bijoux,
bien évidemment, après, l'aspect 100% de télétravail, vous l'avez vécu, enfin les jeunes l'ont vécu en tant qu'étudiant, moi je l'ai vécu en tant que prof, on l'a tous vécu à droite à gauche dans nos différents métiers. Le télétravail, sur 6 mois, 1 an, je le souhaite à personne. Vraiment, le télétravail c'est très bien de temps en temps, ça aide, ça facilite les choses, ça permet justement les confinements, d'éviter les pandémies et la propagation des maladies, mais 100% de télétravail... Vous explosez littéralement au bout de 6 mois.
Pourquoi faire ? Parce que nous, on a connu autre chose. Mais là, les jeunes qui sont interrogés, ils n'ont pas connu autre chose.
Le nombre de dépressions chez les jeunes qui a augmenté est assez considérable.
Oui, sauf que, en fait, pour eux, en fait, c'est l'entreprise, elle va ressembler. Enfin, l'entreprise que nous, on a connue, c'est pas celle que vont connaître les jeunes.
Mais voilà, le mental des jeunes aussi est en chute libre. Il faut aussi le rappeler. Le mental des jeunes est en chute libre. Les cas de dépression chez les 18-25 ans a explosé depuis le Covid.
C'est très drôle, Estelle. C'est marrant parce que quand moi je le dis, je suis caricatural, mais quand c'est une enquête très sérieuse et les jeunes le disent, qu'ils veulent plus travailler, là c'est super.
Bah,
qu'ils veulent
plus travailler.
Non, 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 c'est pas du tout.
Et pas la copine de mon voisin m'a dit que.
Non, mais ce sont des trucs. Alors simplement, je voudrais simplement rappeler à ces jeunes que la protection sociale à la française, qui est merveilleuse, il faut la financer par le travail. Sinon, elle disparaît.
Et s'ils sont plus à travailler ? Parce que c'est ça aujourd'hui, il y a 4 millions de chômeurs en France. Si tous ces jeunes ils décident d'être à mi-temps, eh ben, il n'y aura plus de chômage. Vous voyez ce que vous pouvez voir les choses de manière positive, Fred. Ce que vous faites assez peu souvent, malheureusement.
Oui, c'est vrai. Je suis un peu négatif parce que simplement, je fais des petits calculs. Et ça ne rentre pas.
Tu donnes des verges pour te faire battre parce que cette enquête ne dit pas que les jeunes ne veulent plus travailler.
Exactement.
Ils veulent travailler
moins.
Différemment.
Oui,
c'est
il y a
moins.
D'abord,
non,
deux choses.
Non, parce que ça veut rien dire.
Deux choses. Est-ce que je peux finir une phrase ? Deux choses. Ça concerne forcément qu'une partie des professions. Parce que pour ramasser les poubelles ou pour être à l'hôpital, tu peux pas faire 4 jours au lieu de 5.
C'est pas possible.
Première chose. Deuxième chose, il y a des métiers où tu peux faire ton travail en 4 jours au lieu de 5. Donc si ça peut se faire pour le même salaire et que la force de travail, la productivité est là, pourquoi pas ? Moi, ça me pose aucun problème. Et dernière chose, je l'ai souvent répété ici, les jeunes, aujourd'hui, ne placent plus la réussite personnel dans la réalisation au travail. Ça, c'est quelque chose que nous, qui avons passé un certain âge et qui avons beaucoup investi dans notre vie professionnelle, ce n'est plus la même chose. Ce ne sont pas
mais
des feignants.
On va perdre l'école gratuite, on va perdre la santé gratuite et tout
ah,
ça.
Ce ne sont pas des feignants, ce sont simplement des gens qui ne placent plus la réalisation personnelle dans l'accomplissement au travail.
Mais cela a un coût, c'est-à-dire la fin de la protection sociale.
Après, tu peux travailler plus aussi. Tu veux une journée, tu peux travailler 4 jours, mais en travaillant plus.
Bien sûr.
C'est possible.
C'est pas la même chose.
4 jours. Ça rejoint une proposition de Philippe Martinez.
Des gens qui ramassaient les poubelles, à Paris, ils sont à 32 heures.
Après, il y a le problème, effectivement, des.
Non, mais par exemple.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des métiers en première ligne qui ne peuvent pas travailler sur 4 jours au lieu de 5, très clairement.
La grève du jour.
À l'appel de la CGT, justement, on en parlait, les salariés de Total Energy qui réclament une hausse des salaires ont démarré ce mardi une grève d'au moins 3 jours. Un mouvement qui menace de perturber l'approvisionnement des stations-service en carburant parmi les principaux sites concernés. La bioraffinerie de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ainsi que les dépôts de carburant de Grand-Puy en Seine-et-Marne et de Flandre dans le Nord. Pour rappel, le géant gazier et pétrolier a réalisé d'énormes profits au deuxième trimestre 2022.
Mais il y aura.
Pour le moment,
il faut aller faire le plein, là.
Ah, bah.
Non, mais c'est quand même.
Non.
Je trouve ça assez étonnant.
Ils vont justement.
Ils menacent.
Ils menacent, c'est bloqué.
Je trouve ça assez étonnant de la part des salariés de Total Energy qui demandent une valorisation salariale quand on sait que ce groupe a réalisé 14 milliards de bénéfices en 2021.
Oui, il doit y avoir quand même un petit intéressement et une participation.
Ou alors peut-être que la grève n'est qu'une menace et qu'elle ne sera pas mise à exécution et qu'au bout de 2 heures, ça va être obtenu, leur demande. Mais se demander une valorisation qui est normale, tout le monde souffre de l'inflation.
Une valorisation à hauteur de 10% pour l'année.
C'est marrant, mais je sens que cette grève, là, pour le coup, elle ne va pas être populaire. Vous voyez
Alors,
il y a des grèves populaires,
mais
celle-là,
attention,
je pense qu'elle va avoir du mal à
faire. Si elle dure, maintenant, je me dis naïvement, très naïvement, si Total bloqué par cette grève qui vient de réaliser 14 milliards d'euros de bénéfices, Total pourrait donner un tout petit peu.
Oui. Mais les employés n'ont pas des intéressements, il y a la loi, les intéressements. C'est une grosse entreprise.
Ils doivent avoir, mais après, ils ont du salaire et pas de la prime.
L'industrie pétrolière n'est pas l'industrie qui paye le moins. Quand on regarde dans l'échelle des industries, dans l'industrie pétrolière, c'est plutôt des salaires qui sont un peu au-dessus de la moyenne.
Et j'insiste, la participation et l'intéressement, à partir du moment où c'est dans une entreprise, c'est obligatoire, les salariés vont aussi naturellement bénéficier en fin d'année, enfin une fois dans l'année, des bénéfices extraordinaires réalisés par l'entreprise.
Oui, mais sur la prime, là aussi, une demande de valorisation salariale.
Là, ils demandent 10% de revalorisation salariale. 10%, donc c'est pas assez pour. Enfin, vous savez, vous demandez 10 pour avoir 5. Ça, c'est le principe de la négo.
En cas de forte mobilisation, il y aurait, une baisse de 20 à 30% de la production dans les raffineries.
D'accord. On va terminer avec la reconversion du jour, très rapide.
Celle de Didier Lallement, qui a été nommé hier en Conseil des ministres à la tête du secrétariat de la mer sur proposition de la première ministre Elisabeth Borne. L'ancien préfet de police de Paris prendra ses fonctions la semaine prochaine. Il aura pour but de contrôler et de coordonner la politique maritime du gouvernement.
Oui, Fred, il y a des gens qui restent peu au chômage. C'est le cas de Didier Lallement.
Lui, théoriquement, il devrait être à la retraite.
Après,
il a dépassé l'âge légal.
Non, mais c'est un haut fonctionnaire, non?
Oui, qui a dépassé l'âge légal.
Il peut être à la retraite. Il peut faire valoir ses droits à la retraite.
Bah, il apprend à la mer, vous voyez.
Comme
c'est
ça,
quand
il pourra taper sur les poissons.
Moi, j'ai envie de dire.
Taisez-vous, Pierre Rondeau.
Non, mais.
Ce qu'a dit Thierry, c'est génial.
Alors, je vais laisser Thierry terminer.
Non, je dis, il pourra taper sur les poissons.
C'est ce que j'allais dire. Moi, je me demandais si demain, est-ce que ça va sortir la lacrymo dans la mer.
C'était plus drôle, Thierry.